Alors, comme dirait Pascal...
Boum, boum. Désolé.
Mais... Alors, voilà, c'est gênant.
Même lui, il assume pas son intro.
Elle a vraiment fait ça. En fait, Pascal, c'est ma coloc. Et elle porte pas la moto dans son cœur.
Et donc, elle fait vroom vroom.
Elle a fait vraiment ça. Elle a fait boum boum. À part ça, je vois pas. Mais donc, c'est ma chronique. Et donc...
Et voilà.
Elle trouve ça très compliqué d'avoir des arguments pour qu'on continue à faire de la moto, à parler l'argument déjà cité du vroom vroom.
Parce que c'était un argument.
Bon, et c'est vrai que comme ça, à première vue, qu'un sport consiste à prendre des motos, des moteurs à essence et de les faire tourner pendant 24 heures, c'est pas très... Ça semble pas dans l'heure du temps, où on cherche davantage à réduire nos dépenses énergétiques et notre impact sur l'environnement. Vous me direz, moi je m'en moque, qu'est-ce qui me raconte encore celui-là? Encore un Bobo Rangers.
C'est exactement ce que je suis en train de me dire.
Peut-être, mais tout de même, ça se voit et ça s'entend un peu partout autour de nous. On a les vélos de plus en plus présents, les voitures électriques, les débats sur l'avion ou plus récemment les manifestations contre les autoroutes. Les engins à moteur qui consomment de l'essence, c'est très utile et on en a tous besoin et toutes, mais ils n'ont pas trop la cote, on va dire. Et pourtant, la moto, c'est pas que ça. Sur la moto, il y a un pilote et le ou la pilote, c'est un sportif. Et c'est pas dans cette émission qu'on va vous dire que faire du sport, c'est pas bien.
Quoique Adrien, Julien a peut-être quelque chose à nous dire à ce propos.
Julien, une réponse ?
Sur faire du sport.
Est-ce que faire du sport c'est vraiment bien?
Bah écoute, tu demanderas ça à mon médecin traitant, ça fait 29 ans qu'il me répète la même chose donc.
On l'interviewera la semaine prochaine.
La minute pour convaincre avec le médecin de Julien.
Ouais, c'est 29 ans pour convaincre et il a pas réussi.
Confiance en soi, dépassement de soi, confronter ses peurs, meilleure santé, ouverture à l'autre, découverte, le sport a des qualités indéniables. Mais alors, Jamy, comment on fait pour allier moto et bienfait du sport? Alors en fait, Fred. C'est très simple. Bon, pas vraiment. Les fédérations internationales de sport mécanique sont au courant des tensions qui entourent leur sport. La Fédération internationale d'automobile, la FIA, a par exemple compensé les émissions carbone de ses activités pour l'année 2020. Et elle a un objectif zéro quelque chose en 2030. C'est peut-être pas grand chose et c'est sûr que ça n'a pas réduit les gaz d'échappement de tous les engins qui ont couru cette année. Mais c'est le début et je vais jouer l'optimiste et voir le verre à moitié plein, mais pas oublier que... C'est peut-être pas suffisant, voire pas du tout.
Mais la FIA est pas toute seule.
Là, exactement. La Fédération Internationale de Motocyclisme, la FIM, est consciente depuis 91 des problèmes environnementaux qui pourraient menacer la pratique du sport motomobile. J'adore ce mot. Et lance en 92 un programme Red Green pour mettre en place des politiques et réglementations environnementales. La FIM fait la première fédération de sport mécanique à mettre en place de telles mesures. C'est un programme qui existe encore, il a plus de 30 ans maintenant, et qui, par exemple, a découvert que les circuits moto pouvaient être des refuges pour la biodiversité, que ça soit végétal ou animal. Les circuits moto, par leur installation durable, c'est des trucs qui ne bougent pas, on les change pas de place tout le temps, et leur utilisation ponctuelle, on fait pas non plus des courses et des grands prix toute l'année et tous les jours, devenaient des lieux où la biodiversité pouvait prospérer, une vertu inattendue que la FIM essaie de protéger. On peut aussi noter la volonté d'arrêter d'ici 2017 l'usage de carburants fossiles pour les catégories Moto 3, Moto 2 et Moto GP.
2027.
Exactement.
Alors oui, c'est beau et c'est très louable.
Et tout à fait. Et je vais peut-être paraître aigri, mais on n'oublie pas toutes les autres catégories de motos qui existaient, qui rouleront peut-être encore à l'essence, et que le circuit le plus accueillant pour la biodiversité et qui a le moins d'impact, c'est peut-être celui qui n'existe pas. Bon. Oui, ok. 2 minutes. Je vais essayer de trouver un truc. Je réfléchis. Ça arrive. Oui. Ok.
Ça monte.
Attendez, non, s'il vous plaît, je me concentre. C'est bon, ok, j'ai trouvé. L'un des intérêts de la course moto est, et notamment de l'endurance, est et était pour les constructeurs de mettre à l'épreuve leurs véhicules. Les premières courses d'endurance étaient des courses de voitures qui étaient jugées non pas sur leur vitesse, mais sur des critères tels que être sans danger, aisément maniable pour les voyageurs et de pas coûter trop cher sur la route. Autant vous dire qu'on est un peu éloigné de ce qui se fait aux 24 heures du Mans en moto aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les sports mécaniques sont des lieux d'innovation et de perfectionnement des technologies. On peut citer l'ABS, les freins à disque, les phares anti-brouillard développés pour une voiture pour les 24 heures du Mans. Toutes des technologies développées d'abord pour la compétition et qui sont désormais sur nos motos et voitures. Les sports mécaniques sont des tests grandeur nature des technologies de demain. Alors si le futur doit être sans gaz d'échappement et avec des motos avec un impact minime sur l'environnement, eh bien peut-être que ça arrivera par une innovation lors d'un bol d'or ou des 24 heures du Mans, qui sait.
Alors ouais, les carburants bio, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, tout le monde travaille dessus. On a des équipes en endurance qui font des tests et qui roulent dans la catégorie expérimentale, donc ben, ça porte bien son nom. Une équipe qui est portée par un lycée de Montpellier justement.
D'accord.
Qui roule avec le carburant bio de chez Total depuis deux ans au bol d'or. Ça implique plein d'autres problèmes parce qu'en fait ça consomme beaucoup plus, donc
oui.
Donc au niveau performance, bah,
oui, ils sont encore en train de chercher l'équilibre.
Voilà, donc mais aujourd'hui on a des antichambres de la Formule 1 qui roulent au carburant bio. Développé par Repsol, donc il y a beaucoup de c'est dans les, c'est le cas de le dire,
c'est dans les
durites.
Voilà. Et par contre j'ai juste un petit truc pour Pascal.
Oui, dis-moi, je lui transmets. Alors, peut-être qu'elle écoute en plus.
J'ai un petit truc pour Pascal. Il y a une étude qui a été faite par la FFM, donc la Fédération Française de Moto, sur les émissions CO2 d'une saison complète de moto.
Ouais.
Y compris les camping-cars
et
les voitures
des
pilotes.
Tous les gens qui viennent voir et tout.
Qui viennent voir.
Ouais.
Et en fait, la totalité de toute la saison de tout, c'est
équivaut à
un aller-retour Paris-Rio avec
d'accord.
un Airbus.
Et bien je lui transmettrai. Voilà.
Et est-ce qu'il y a autant de camping-cars et tout que le Tour de France? Parce que genre le Tour de France, je suis sûr que ça peut être encore
en
plus
fait,
qu'un aller-retour Paris-Rio.
Pour
tu
te
vois.
Dire, pour franchement, c'est, oui, il doit pas y en avoir plus que le Tour de France, mais c'est en gros 200 pilotes. Ouais. Supporté par, allez, on va dire 5 véhicules, pour être très gentil, 5 véhicules mini, donc il y a 1000 bagnoles plus les motos sur les courses. Mmh. Et tout ça sur toute l'année, sur tout le championnat, c'est ouais. un aller-retour par Rio.
Ah, tu vois, moi je vais pas faire de la moto, mais je vais aller à Rio.
Et voilà.
À moi tout seul.
Moi je préfère faire le tour des trucs de moto.
Ouais.
On se répartit les...
Ouais, c'est ça, on se répartit les tâches.
Adrien.
Mais du coup, c'est un truc dont vous êtes conscient et auquel vous faites attention, de façon générale, vous les pilotes, ou c'est comment vous gérez le truc assez...
si tu veux, c'est quelque chose qui est on est au courant,
ouais.
On est forcément, enfin,
ben oui, je me
doute. On vit sur la même planète, mais mais en fait, nous, on est tellement au courant que c'est minime, que en fait, c'est difficile en tant que pilote d'avoir un impact là-dessus,
ouais.
parce qu'en fait, vraiment. Vraiment, c'est minime par rapport à tout ce qui se passe.
À d'autres pratiques,
ouais,
et à
clairement.
D'autres trucs, et du coup, tu...
On avait eu juste un petit truc, ça dure pas longtemps. La FFM a mis en place les tapis environnementaux en motocross dans les années 2005, par là. Donc, sous toutes les motos, il fallait un tapis homologué.
Servait
par
à...
la FFM.
Ça servait à quoi,
pour,
ce tapis
absorber les huiles.
Parce qu'en fait, les parkings motocross, enfin les paddocks,
d'accord.
sont souvent dans le champ du voisin,
oui.
du circuit. Et du coup, pour si tu fais le plein, que t'en mets partout et tout. Donc, sauf qu'en motocross régional, en fait, nous on était morts de rire parce qu'on avait tous des vieux masters ou des vieux Ducato pourris qui fuyaient l'huile de partout. On avait tous des motos où on se saignait pour avoir des motos neuves qui ne faisaient évidemment pas une goutte d'huile par terre. Donc, en fait, on avait des tapis ou des trucs neufs qui fuyaient pas. Et on avait tous les camping-cars et tout qui faisaient 2 litres d'huile par week-end. Mais bon, c'est en même temps, si on commence pas par un endroit,
il faut lancer la machine après.
C'est vrai que les fédérations sont là-dedans, et le gros contrairement à ce qu'on croit, le gros problème de pollution aujourd'hui des sports mécaniques, c'est pas le CO2, c'est la pollution sonore, et ça, en fait, on l'oublie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de
nous
choses.
Nous, on l'oublie parce qu'on met la télé, on baisse le son, mais ceux qui habitent à côté au Mans et tout
voilà,
ça, eux, ils n'oublient pas.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et aujourd'hui, plus sur la pollution sonore que sur la pollution CO2 réellement, parce qu'en fait, voilà, c'est minime par rapport à tout ce qui se passe.